Chapitre 7. Les week-ends, Juna aide souvent Valeria à la pépinière de Naka. Le travail manuel l'aide à apaiser ses pensées. Bien que tout le monde à la Noa fasse des heures sup pour traquer l'assassin de Margot, l'enquête est au point mort. Ils n'ont absolument rien pour avancer. Le meurtre de Margot reste un mystère. La recherche d'empreintes n'a rien donné. Ils attendent toujours le rapport médico-légal et des analyses complémentaires du laboratoire. Juna remonte 8 sacs de tourbe du caveau à légumes et la dépose à côté des carrés potagers. Il est vêtu de bottes finlandaises, d'un vieux jean et d'un pull bleu marine truffé de taches de peinture, souvenir de l'automne précédent lorsqu'il a repeint les boiseries de la maison. Juna s'arrête pour regarder Valeria, qui avance entre des rangées de jeunes arbres fruitiers en pot en poussant une brouette de terreau. Elle a un pansement sur une joue, et ses cheveux bouclés sont constellés de brindilles sèches. Elle porte des gants et des bottes en caoutchouc couvertes de boue séchée, un jean noir et une doudoune rouge maculée de terre. Si belle et tellement incroyable, pense Juna. Depuis longtemps, il songe à la demander en mariage. Probablement qu'elle accepterait. Enfin, pas si elle connaissait la vérité sur lui. Juna ne peut pas lui avouer qu'il fume de l'opium dès qu'il est rattrapé par le sentiment qu'il contribue à empirer le monde. Il n'est pas dépendant. Mais il en reprend quand même en se promettant à chaque fois que ce sera la dernière. Il ne supporte pas l'idée de perdre Valeria ou de la rendre malheureuse. Après le lycée, elle a rencontré un homme de quelques années plus âgé dont elle est tombée follement amoureuse. Il était toxicomane, elle a essayé de l'aider. Ils ont eu 2 fils ensemble, et elle est finalement devenue elle-même héroïnomane. Elle a fini derrière les barreaux après avoir essayé de passer 8 kilos de haschich depuis l'Estonie. Malgré toutes les années écoulées, malgré le fait qu'elle n'a pas rechuté et qu'après son séjour en prison, elle a élevé seule ses 2 fils, elle ne s'est jamais pardonné cette période de sa vie. Et elle ne lui pardonnerait jamais. Juna ignore pourquoi il sombre parfois, au point de frôler son propre anéantissement. Il a tenté d'y voir une façon de faire son deuil, d'admettre sa propre vulnérabilité afin de pouvoir continuer à se battre. Mais c'est faux. La vérité est que quelque chose s'est brisé en lui lorsqu'il a passé la corde autour du cou de Jurek Walter. Depuis, chaque fois qu'il se réveille la nuit, il entend l'écho du dernier murmure de Jurek. Un nuage de poussière s'élève sous le soleil éblouissant lorsque Juna remue la tourbe avec sa pelle. Valeria s'arrête soudain, se passe la main dans les cheveux et tourne la tête vers l'étroite route asphaltée et fissurée. Une fourgonnette blanche approche. Il pose sa pelle sur le châssis d'un carré et s'approche d'elle. C'est Erickson, dit-il.
Tu savais qu'il allait venir ?
Non, mais je crois savoir ce qu'il a à me dire. La fourgonnette s'arrête sur l'aire de manœuvre. La portière s'ouvre et un sachet de chips tombe par terre avant qu'Erickson n'apparaisse à son tour et s'extirpe avec difficulté du véhicule.
Quel endroit incroyable !
Dit-il à Valeria en ouvrant les bras.
C'est magique chez toi.
Merci.
Sourit-elle. Elle retire un gant et lui serre la main.
Mon amour pour nos amis du règne végétal n'est, hélas, pas partagé. Tu n'aurais pas de belles fleurs en plastique ?
Plaisante-t-il d'un air triste.
Je peux en commander si tu veux.
Sourit-elle. Elles faneront quand même. Le taquine Juna.
Probablement.
Soupire-t-il. Elle jette un bref regard vers Juna pour lui montrer qu'elle comprend la situation.
Je vais me laver et préparer le repas. Si tu veux rester dîner avec nous, tu es le bienvenu, Erickson.
Lance Valeria en se dirigeant vers la maison. Il la regarde s'éloigner, reste un moment silencieux, puis commence à marcher sans but avant de s'arrêter devant une rangée d'arbrisseaux.
Je ne voulais pas t'en parler au téléphone, mais l'ADN a été identifié.
Ce sont bien les restes de Margot qui se trouvaient dans le sac.
En réalité, on le savait.
Soupire Juna en s'asseyant lourdement sur une pile de palettes. Erickson donne un petit coup de pied dans les graviers,
puis lève des yeux vides vers Juna. Je crois que c'est la pire chose que j'ai jamais vue. À l'intérieur de l'enveloppe en plastique et en tissu, il y avait un sac en caoutchouc. Le corps a été dissous dedans avec de l'hydroxyde de sodium et de la soude caustique. La cause de la mort est impossible à déterminer. Il est donc envisageable qu'elle ait été enfermée vivante dans ce sac. Je ne sais pas. Tu as vu les photos médico-légales ?
Erickson lui tend une enveloppe, puis se détourne lorsque Juna l'ouvre et en extrait deux clichés en couleur. Sur la première, le contenu du sac est étalé sur une table d'autopsie au rebord surélevé. Les tissus dissous de Margot ne sont qu'un mucus gris-jaune, semi-transparent, avec à différents endroits de gros amas isolés. On peut discerner un pied ensanglanté sans orteil à côté d'une colonne vertébrale presque à nu. Sur la seconde photo, l'aiguille a éliminé les produits chimiques ainsi que le liquide et a aligné les parties non dissoutes du corps sur une table métallique. Un crâne avec quelques touffes de cheveux, des tissus musculaires du cou et de la gorge, des fragments de squelette, une cuisse et un morceau de bassin gris strié de sang.
Concernant l'écurie, reprend Erickson en se raclant brièvement la gorge. Tu avais raison. Le labo a trouvé des particules chimiques inflammables dans les 5 gouttes de sang. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'outre les traces habituelles de sulfure d'antimoine, il y a aussi du potassium, de l'étain et du mercure.
La cartouche avait donc une amorce au mercure,
dit Juna en remettant les photos dans l'enveloppe. J'ai fait des recherches. Ce type de munition n'est plus fabriqué. Il n'a servi que pendant quelques années en Europe de l'Est. Mais sûrement qu'en cherchant bien, on peut encore en dénicher dans de vieux dépôts.
Vous avez trouvé la balle parmi les restes ?
Demande Juna en posant 2 doigts sur sa paupière gauche, sentant venir une migraine. Oui, elle est dans le laboratoire de la voiture. Je me suis dit que tu voudrais y jeter un œil.
Il se dirige vers la fourgonnette. Le vent fait frémir les feuilles des jeunes arbres fruitiers.
Ce qui est étrange, c'est que l'enveloppe du projectile est complètement blanche,
dit Erickson en regardant Juna. Quel genre de métal ?
Il ne peut s'agir que d'argent chauffé à blanc. Tu sais, n'importe quel alliage d'argent contient du cuivre, même l'argent sterling. Mais je pense que l'auteur du crime a chauffé la balle jusqu'à ce que tout le cuivre soit oxydé. Puis il l'a nettoyé avec de l'acide. À l'arrivée, on a une couche d'argent pur, blanche comme la neige.
Erickson ouvre la portière de la fourgonnette et se hisse à l'intérieur en soufflant bruyamment. Il allume la lampe au-dessus du petit bureau et détache les sangles qui maintiennent la chaise. Juna le suit, tête baissée pour ne pas se cogner.
« Il n'y a pas d'empreinte digitale sur le projectile, »
dit-il en attrapant une boîte.
« Assieds-toi et dis-moi si tu as besoin d'un microscope à contraste de phase. »«
Merci. »
Erickson se saisit d'une petite pince aux pointes en porcelaine, sort la balle de sa boîte en carton et la place sur une plaque de verre.
Juna s'assied au bureau et oriente la lampe vers l'objet. Le projectile est déformé. Son extrémité blanche ressemble à une tulipe ouverte et le noyau en étain est aplati comme le bouton d'un manteau.
Une balle à pointe creuse, constate Juna. Son diamètre est de 9,27 mm. C'est 1/4 millimètre de plus que les balles que tu utilises, explique Erickson.
Alors c'est un Makarov ?
Oui, acquiesce Erickson.
Avec des munitions en argent équipées d'une amorce au mercure.
C'est vraiment très étrange, soupire-t-il. Tu ne trouves pas ?
Si, hésite Juna.
Tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ?
En temps voulu.
Lorsqu'Erickson est parti, Juna va ranger la pelle et la brouette dans la cabane à outils.
Le soleil est en train de décliner derrière la cime des arbres et la forêt plonge progressivement dans la pénombre.
Il se demande à nouveau ce que peut bien signifier ce choix macabre de dissoudre le corps de Margot.
Un voile gris s'est déposé sur la pépinière. Les sacs de tourbe sont alignés et la surface du tonneau de récupération de pluie scintille comme une pupille.
Le lien avec la carte postale reçue par Saga est désormais incontestable. Arthur K. Jewell est l'anagramme de Jurek Walter. Le pistolet auquel l'expéditeur fait référence est un Makarov. Et selon l'expéditeur anonyme, le chargeur contient 9 balles blanches. L'une des balles m'est donc destinée. Songe, Juna. Et apparemment, Saga est la seule à pouvoir me sauver. Qui a pu écrire cette carte postale? Jurek Walter est mort, comme toute sa famille. Et son complice, Beaver, est en prison en Biélorussie. Il ne s'agit pas d'un imitateur. Le modus operandi de ce tueur n'a aucun rapport avec celui de Jurek. Jurek ne s'est jamais amusé à imaginer des anagrammes ou des énigmes, réfléchit Juna en se dirigeant vers la rangée de serres éclairées. Jamais il n'aurait risqué de laisser derrière lui des dessins ou des écrits. Il s'était créé un palais de la mémoire très sophistiqué. De l'extérieur, ça pouvait passer pour une énigme. Mais pour Jurek, il s'agissait simplement d'un système visuel de coordonnées qui situait les tombes de toutes ses victimes. Il n'a jamais terminé son schéma. Aucune tombe n'avait été retrouvée sur le dernier point de sa constellation, à Moraberg. Mais il semble évident que la personne qui a envoyé la carte postale a un lien avec Jurek, et donc aussi avec Saga et lui-même. Juna aimerait reprendre la discussion avec Saga. Il fera une demande auprès du directeur par intérim de la NOA, afin de l'employer temporairement comme enquêtrice, en attendant l'accord de la psychologue. Un Makarov rouge sang, avec 9 balles blanches. Les cartouches 9x18mm Makarov sont parfaitement adaptées à ce pistolet semi-automatique. L'arme a été développée en Union soviétique peu après la Seconde Guerre mondiale, et elle est encore utilisée un peu partout dans le monde dans une version modernisée. Le tueur s'est faufilé dans l'écurie lorsque Margot s'y trouvait, lui a tiré une balle dans le dos, l'a traînée dehors, l'a mise dans sa voiture et a dissous le corps dans le cimetière du choléra de Kapelsker, à 120 km de là. Juna vide son seau de feuilles sur le tas de compost, puis fixe l'obscurité qui gagne les troncs des arbres au-delà des myrtilliers et de la bruyère. Un oiseau saute rapidement sur les branches du pin le plus proche. Deux pommes de pin tombent au sol. Juna se retourne et part en direction de la cabane à outils. Il entend les brins d'herbe craquer sous ses pas. Et il suspend le seau près des râteaux, puis lève les yeux vers la maison. Une douce lumière éclaire la cuisine, et l'ombre de Valeria se déplace derrière le rideau de la fenêtre. Alors qu'il vient d'enrouler et de ranger le tuyau d'arrosage, il remarque que la porte de la serre du fond est ouverte. Il s'essuie les mains sur les jambes de son pantalon. Les graviers sur le petit chemin crissent sous ses bottes. Sa longue silhouette, auréolée de la lumière brumeuse qui filtre de la cuisine, se reflète dans le vitrage des serres. L'espace d'un instant, il perçoit au loin le grondement sourd d'un hélicoptère. Puis le silence revient. Il continue à longer la rangée de serres et s'arrête devant la dernière, celle que Valeria utilise en partie comme réserve. La porte est grande ouverte. Juna jette un œil à l'intérieur et voit un chat gris qui rôde autour d'un sac de fumier. Il entre et emprunte l'allée centrale pavée de dalles de béton. Une odeur amère de plants de tomates flotte dans l'air. Les plantations se dressent de part et d'autre, pressant leur feuillage contre la paroi. Elles forment une allée qui se termine dans l'obscurité. Le chat a disparu. L'arrosage automatique se déclenche, et le système d'irrigation émet un léger sifflement. Il longe lentement l'étroite plate-bande jusqu'à la réserve au fond de la verrière. Au-dessus de lui, le ciel du soir est sombre. Un sac plastique sale est enfoncé dans un pot en argile. Juna aperçoit le chat. Celui-ci se met à cracher avant de disparaître à nouveau. Un craquement le fait sursauter.
Une brindille qui se brise quelque part à l'extérieur de la serre. Juna repère une pelle au manche cassé, posée dans un casier en bois. Son regard s'arrête sur les vieux meubles que Valeria a stockés. Le grand bureau en acajou est incliné à cause d'un pied qui a cédé. Tout ce qui était empilé dessus est tombé. Le coffre de marin portugais est couché sur le côté avec le couvercle ouvert, une plaque de céramique gravée d'une rose des vents s'est fendue et quelques photos sont dispersées sur le sol. Soudain la porte s'ouvre. Juna se saisit du manche de pelle mais le relâche aussitôt quand il voit Valeria allumer le plafonnier. « C'est ici que tu te caches ?» dit-elle en s'approchant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Le pied s'est cassé, » explique-t-il en montrant du doigt le bureau.
« Je m'occuperai de ça demain. Le dîner est prêt. »
Il ramasse les trois photos et les lui donne.
C'était les 40 ans de mon père, dit Valeria en montrant un cliché qui représente toute sa famille.
Tu devrais l'encadrer.
Ou celle-là, sourit-elle. Elle lui tend une image aux couleurs pâlies par le temps. Dessus, Valeria a peut-être 5 ans. Elle sourit de toutes ses dents à l'objectif, un ballon de football sous le bras.
« T'as l'air cool, » dit-il en la regardant.
Il fronce les sourcils en observant la dernière photo. 3 adolescentes aux cheveux détachés et aux vêtements blancs marchent dans l'eau. Elles tiennent une grande statue bleu clair, représentant une femme vêtue d'une longue robe et d'un voile de perles.
« C'est toi au milieu ?» demande-t-il.
« Non, je ne comprends pas. Mãe de água, la mère de l'eau. » C'est une figure révérée au Brésil.
Ce sont tes amis?
Non. Je ne sais pas du tout d'où vient cette image. Je ne l'ai jamais vue auparavant,
dit-elle l'air pensif. Brandon termine sa pizza kebab Millennium avec un supplément de sauce, puis avale une bonne gorgée de sa 5e bière forte au bar Blokrogen. Son portable à la main, il passe d'une appli de rencontre à l'autre, communiquant avec plusieurs personnes à la fois. Mais aucune n'est prête à un rendez-vous avec lui ce soir. Il se dit souvent qu'il devrait retourner à Uppsala, mais il n'a pas la force de reprendre sa vie en main, et son travail à Christina Gordon n'est finalement pas si mal. Ce soir, il a décidé de ne plus jamais aller au parc de l'église. Mais des images lui reviennent sans cesse en tête. Le gravier raclé sur l'étroite allée, et le banc dans l'obscurité entre les lampadaires. C'est là qu'il a rencontré Eric, sa relation la plus longue. Elle a duré 7 mois, jusqu'à cet été, quand Eric a voulu partir seul en train avec sa carte Interrail, prétextant avoir besoin de se sentir libre. Quand Brandon a cessé d'espérer son retour, il a commencé presque compulsivement à retourner au parc de l'église. Mais aller là-bas ne le mène nulle part. Ça ne l'aide pas à renforcer son estime de soi, ça ne lui apporte aucun réconfort, et ce n'est même pas sexuellement satisfaisant. Au mieux, c'est suffisamment intense émotionnellement et épuisant physiquement pour qu'il réussisse à dormir en rentrant chez lui. Ses anciens amis traînent comme d'habitude sur le terrain de foot ou dans le centre de Alstavik. Pour rien au monde, il ne veut les voir. C'est la raison pour laquelle il s'est réfugié dans ce quartier de la ville. Il termine son verre, se lève, repousse la chaise verte sous la table, pose la main sur l'un des piliers mouchetés, traverse le bar au plancher grinçant, puis salue le barman. L'air de cette fin d'été porte en lui le parfum des soirées de vacances. Le ciel est sombre. Devant le bar, un panneau d'affichage sur ressort oscille au gré du vent. Brandon avance en titubant. Il sait qu'il devrait rentrer chez lui, mais son agitation le pousse à continuer sur la grande route qui longe l'usine de papier. C'est un immense complexe de bâtiments avec des façades en briques sans fenêtres, des piles de copeaux de bois humides, des parcs à grumes et des camions. Comme une putain de dystopie dans un film de science-fiction, pense-t-il. Il quitte le trottoir et avance sur la pelouse fraîchement tondue entre les branches pendantes des bouleaux et des tilleuls. La façade de l'église est éclairée, mais le parking est plongé dans l'obscurité.
Une Volvo assez récente est garée le long du mur. Brandon s'arrête. Sa tête tourne à cause de l'alcool. Il croit discerner des mouvements à travers les vitres embuées de la voiture. Il continue à monter la côte d'un pas chancelant, en direction du sentier sinueux et du banc vide, vers lequel il revient toujours. Celui-ci est dans l'ombre, sous l'érable. Il jette un œil autour de lui, et reste un moment immobile, debout, face au banc. Une voiture passe un peu plus bas sur la grand-route, puis on n'entend plus que le souffle du vent dans les arbres. Un doux bruissement qui caresse leur cime. Et soudain, un grondement sourd. Il est faible, presque inaudible. Puis il se perd à nouveau dans le silence. Brandon tourne la tête en direction du chemin qui traverse le cimetière. Un homme d'âge moyen, vêtu d'une veste en cuir marron, est debout derrière un buisson et le regarde avec un sourire crispé. Brandon sent soudain une goutte lui tomber sur la nuque, une lourde goutte de pluie qui le brûle comme de l'eau bouillante. Il l'essuie de sa main et en reçoit aussitôt une autre sur les doigts. « Aïe, ça !» Il s'écarte et lève les yeux. Dans l'arbre, à 3 mètres au-dessus de lui, est suspendu un long paquet enveloppé de rubans adhésifs et de cordes. Il se balance doucement et fait gémir la branche robuste.